de santé, le magazine Prévention Santé de Radio Campus Rennes.
En partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé et la Région Bretagne.
Bienvenue à tous dans Jeux de Santé. Vous êtes bien sur le 88.4 de Radio Campus Rennes pour une émission un peu spéciale, puisqu'en partenariat avec le service interuniversitaire de médecine préventive et le centre hospitalier universitaire de Rennes, aujourd'hui, il sera question du don d'organes en compagnie de mes invités, Valérie Rebourg et Simone Joanigo, toutes deux infirmières coordinatrices de prélèvement d'organes et de tissus au CHU de Rennes, et Thierry Frouget, néphrologue au sein du même établissement. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Alors, on vous accueille aujourd'hui dans les studios de Radio Campus à l'occasion donc d'un colloque qui se tiendra le 26 mars 2015 dans l'amphi Victor Bach, bâtiment L du campus de Rennes 2. Avant d'entrer ensemble un peu plus dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, une première question peut-être pour Valérie Rebourg, car vous faites partie du comité de pilotage de l'événement. Alors, si ce colloque ne s'adresse pas exclusivement aux étudiants rennais, votre collaboration avec le CIMS n'est cependant pas anodine. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre ce sujet en débat? Ou plutôt, en quoi est-ce important selon vous d'impliquer les étudiants dans la réflexion sur le don d'organes?
Alors déjà, je tenais à remercier Radio Campus et en même temps, bien sûr, le pôle de santé sociale qui nous a contactés. En fin de compte, pour nous, ça fait partie de nos missions, la promotion du don d'organes. Les étudiants, les étudiants, c'est aussi tout public. Donc pour pouvoir effectivement faire... la promotion sur le don d'organes et surtout d'organiser une journée, la journée donc du 26 mars. Donc c'est très intéressant pour nous parce que c'est un public qu'on côtoie pas forcément tous les jours, les étudiants, puisque nous on est sur le CHU. Donc au contraire, on est là pour parler de nos expériences. Et puis je remercie aussi Jacqueline Guilmerne qui est une infirmière aussi ici au pôle santé. Qui avait travaillé aussi en réanimation et c'est comme ça qu'elle nous a contactés puisque nous on a une cellule de coordination de prélèvement d'organes et tissus au CHU de Rennes.
D'accord, donc on voit clairement qu'il y a un enjeu aussi de communication autour du sujet du don d'organes. Donc ça, cet enjeu-là, il est souvent souligné dans la presse puisque c'est quelque chose qu'on aborde assez peu. Cet enjeu de communication, mais on aborde aussi un peu plus, par contre, la question du progrès médical. Et donc, pour aborder cette question, nos auditeurs se souviennent peut-être de la fin d'année 2012, lorsque les médias nationaux relayaient une information qui était la suivante, je cite, « L'équipe du professeur Karim Boudjema du CHU de Rennes a opéré lundi 26 novembre une femme âgée de 64 ans atteinte d'un cancer du foie par la technique dite ex vivo. » Donc ça, c'était La Croix qui titrait le 28 novembre 2012. C'est une opération extrêmement rare et éprouvante pour la patiente comme pour l'équipe médicale. Elle a duré environ 11 heures. Thierry Frouget, je me tourne vers vous. Donc vous êtes néphrologue. On a souvent tendance à considérer que d'un point de vue technique, le corps médical, il est maintenant à peu près au point sur la question de la greffe. Mais on voit quand même tout de même qu'on continue à faire des progrès pour la sécurité des patients. Quels sont les progrès les plus récents que vous pourriez citer et quels sont ceux à venir?
Donc comme vous l'avez dit, je suis néphrologue, donc je ne suis pas chirurgien ni spécialiste des maladies du foie et donc je ne vais pas vous parler de cette prouesse chirurgicale qu'a fait le professeur Boudjema. En termes de sécurité et avant d'aborder celle de la greffe proprement dite, il faut savoir qu'à la différence d'une maladie cardiaque ou hépatique évoluée, il existe pour les maladies rénales chroniques une technique de suppléance qui est la dialyse, qui a fait également d'énormes progrès depuis 40 ans. Mmh. Ainsi, par exemple, on a certains patients qui ont pu dépasser les 30 années de dialyse, ce qui est quand même très très important. Donc il faut... Quand on envisage la greffe chez un patient, évaluer correctement les bénéfices et les risques, surtout chez les patients très âgés ou qui ont des maladies associées qui pourraient éventuellement poser des problèmes dans le post-greffe immédiat. Par contre, on sait que, quel que soit l'âge du patient, et s'il n'a pas d'autres pathologies, la survie en greffe sera toujours meilleure que celle en dialyse. Alors, en termes de sécurité, au niveau chirurgical, il n'y a pas eu de grandes améliorations ces dernières années. On peut juste citer en 2013 une première en France, à Tours, où une première greffe a été réalisée par voie cœlioscopique assistée par un robot.
D'accord. Donc ça, c'est les évolutions aussi en termes d'introduction de nouvelles technologies.
éventuellement. Pour l'instant, on manque encore de recul. Cette technique devrait, en théorie, diminuer le risque de complications en post-opératoire immédiat. Concernant le traitement anti-rejet, là encore, il n'y a pas eu de changements fondamentaux depuis une quinzaine d'années. Globalement, on a un traitement qui est très efficace pour prévenir les rejets, puisqu'on a diminué le taux de rejet autour de 10 à 15%. Par contre, on a toujours des complications infectieuses ou tumorales à moyen ou long terme. Schématiquement, l'objectif serait de trouver des médicaments qui bloqueraient seulement les molécules qui reconnaissent les molécules étrangères et donc qui entraînent le rejet, tout en préservant celles qui permettent de lutter contre les infections et les tumeurs.
Très bien, donc Simone Joanigo, je me tourne vers vous. Alors lorsqu'on entend parler de dons d'organes, c'est souvent la pénurie d'organes qui est mise en avant. Est-ce que vous auriez peut-être pour nous quelques chiffres pour qu'on puisse saisir l'ampleur du phénomène ?
Alors, un chiffre général, il y a 19 000 personnes en attente de greffe et il y a 5 200 greffes réalisées en 2014. Les chiffres en détail, vous les avez sur le site de l'Agence de la biomédecine ou sur le site de la DOT 35 ou nationale. Mais ce que je voulais dire surtout, que ce qui est plus difficile dans notre travail, les donneurs ont changé. Ça fait 14 ans moi, que je fais ce métier et ce n'est plus du tout la même population.
Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors, c'est des personnes beaucoup plus âgées. Donc, ça entraîne un travail beaucoup plus difficile que dans la chaîne du prélèvement et de la greffe, puisque c'est plus compliqué aussi au niveau du prélèvement, mais plus compliqué aussi au niveau de la greffe.
Quand on parle de pénurie, ça vous semble être un terme adapté ?
Alors, pénurie, oui, il y a une pénurie, mais je tiens aussi à souligner qu'en Bretagne, le taux de refus est moindre par rapport au national.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en Bretagne, il n'y a que aux environs de 20% de refus. Nous sommes généreux par rapport à la France qui est de 33%.
Ah oui, tout de même. D'accord. Donc il y a quand même un grand écart.
Alors on peut dire que peut-être que les équipes sont pros, je ne sais pas. mais je suis aussi une forte conviction sur le don. Et c'est aussi par un travail comme aujourd'hui, en venant en dehors des murs de l'hôpital, qu'on fait la promotion. Et ça, c'est important qu'au niveau de tous les équipes de Bretagne, d'en parler.
Alors, on sait aujourd'hui que la majorité des donneurs prélevés sont des personnes qui décèdent à l'hôpital en état de mort encéphalique suite à un arrêt vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien. Donc, ça concerne un peu moins de 1% des décès à l'hôpital. Or, cette source d'organes représente actuellement près de 92,5% des greffes réalisées en France. Pour lutter contre cette pénurie, l'Agence de biomédecine soutient donc le développement du prélèvement d'organes sur d'autres catégories de donneurs. Thierry Frouget ou Simone Joanigo, quelles sont ces autres catégories de donneurs ?
Donc, c'est vrai, actuellement, il y a en fait trois catégories de donneurs, donc les donneurs cadavériques en état de mort cérébrale, comme vous l'avez dit, qui sont en effet la principale source de donneurs, les donneurs vivants, et puis depuis 2006 à peu près, les donneurs à cœur arrêté. Donc cette dernière catégorie concerne des patients qui vont présenter un arrêt cardiaque, soit à l'hôpital, soit en milieu extra-hospitalier, et même si les premiers résultats sont encourageants sur la survie des greffons, il faut savoir que c'est une technique quand même qui est très très lourde, qui nécessite une coordination parfaite et rapide entre les équipes, et qui par exemple n'est pas faite sur Rennes actuellement. Il y a aussi également un encadrement très strict au niveau de la sélection des donneurs et des receveurs, et puis elle pose également un peu plus de problèmes sur un plan éthique.
Très bien. Alors, est-ce que ce désir de diversification des catégories de donneurs, est-ce que c'est compatible avec tous les organes qui peuvent être aujourd'hui transplantés ? Qui veut répondre ?
Alors, pour les donneurs à cœur arrêté, on ne peut prélever que les reins, le foie ou les tissus. On ne peut pas prélever le cœur, par exemple, puisque par définition, oui. Le cœur ne fonctionne pas bien.
On a mentionné donc la possibilité pour des vivants de donner un organe. Cette possibilité, elle est encadrée par la loi bioéthique de 2011. On va essayer peut-être de s'attarder un petit peu hein, après sur cette loi. Alors cette loi avait été votée en 2004, puis réformée donc en 2011, ce qui montre bien hein, que sous sa première forme, elle n'était pas forcément suffisante, dira-t-on. Qu'est-ce que nous dit cette loi par rapport aux donneurs vivants ? Qui sont-ils, Valérie Rebourg ?
Oui, ben on peut parler un petit peu, c'est vrai, de la loi, surtout les changements. Surtout les premières conditions par rapport aux donneurs vivants, c'est le lien familial ou affectif. Alors, ce qui a changé par rapport au premier texte, c'est qu'effectivement, ça s'est élargi hein, pour les donneurs vivants. Avant, il fallait qu'on trouve son donneur dans sa famille proche, frère, sœur ou conjoint. Alors que maintenant, ça peut être plus élargi. Donc, on peut avoir une personne qui appartient, enfin, on peut dire, dans l'ensemble de la famille.
Au sens élargi,
mais
en fait.
Aussi, voilà, plus même en tant qu'ami, du moment qu'on puisse prouver un lien affectif hein, de quelques années avec
cette
personne.
Comment on fait pour prouver un lien affectif ?
Et voilà, c'est difficile.
C'est toute la question, j'imagine.
Voilà. Mais bon, après, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi, il faut être compatible.
Oui.
Il y a bien sûr l'état de santé du donneur. Hein, parce qu'on ne peut pas être effectivement donneur vivant si déjà on a un problème de santé.
Tout à fait.
Hein, parce qu'on ne va pas enlever un rein si déjà on a un problème aussi rénal. Hein. Ça paraît de soi, mais ce n'est pas toujours évident dans la tête non plus des gens. Et puis, c'est aussi une liberté de choix. Donc, c'est le donneur vivant, on ne vient pas comme ça, on ne frappe pas à la porte. Ça y est, je viens donner un rein à telle ou telle personne de ma famille ou de mon entourage. En fin de compte, il y a un comité hein, qui doit se réunir, un comité, ce qu'on appelle le comité de donneurs vivants.
D'accord.
Hein, où lors de ce comité, ben, il y a des juristes, des psychologues, pour bien entourer justement aussi ce don. Hein, parce que bien sûr, là, ce n'est pas un don qui est anonyme.
Oui, parce que j'avais un peu de mal avec cette idée d'anonymat, puisque la loi stipule que le don doit être anonyme, mais en même temps, elle stipule qu'il doit y avoir une proximité affective ou familiale. C'est une condition de possibilité du don. Alors, on ne comprend pas forcément très bien cette...
Oui, il n'y a que dans le donneur vivant, en fin de compte, ce n'est pas anonyme.
Oui.
Hein, parce qu'autrement, pour tous les autres dons, c'est anonyme.
D'accord, ouais. Donc ouais, la distinction est faite.
Oui.
Sauf pour un don croisé.
Voilà, sauf le don croisé.
Don croisé
est anonyme aussi.
Vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est ?
Alors, le don croisé, c'est un petit peu plus particulier parce qu'il faut, par exemple, vous avez, on va prendre un exemple, un couple qui, le mari, est d'accord de donner un rein à sa femme, sauf qu'il n'est pas compatible, ils ne sont pas compatibles. Et un autre couple X, hein, où c'est le mari aussi qui serait d'accord de donner son rein à sa femme. Et puis, par contre, ils ne sont pas non plus compatibles. Or, les deux, en croisé, sont compatibles. Je veux dire, le mari de la dame Y peut donner à la femme du premier.
D'accord.
Donc, ça va se croiser, effectivement. Par contre, ils ne vont pas se connaître. Hein, donc, c'est là qu'on dit que ça reste anonyme. Donc, c'est ce qu'on appelle les donneurs croisés.
Ça existe beaucoup aujourd'hui
ou... En fin de compte, on donne son rein pour quelqu'un d'autre, qu'on ne connaît pas. Mais
d'accord.
On donne de son vivant.
C'est quelque chose qui est fréquent actuellement ou
Ça se développe, mais il y en a pas. Non, il y en a pas beaucoup.
Pas beaucoup. Ouais. D'accord.
C'est compliqué également. C'est compliqué à mettre en place. Hein, puisqu'il faut que le prélèvement se fasse en même temps.
En même temps.
Le
oui.
plus souvent dans deux villes différentes et que les organes soient transférés après dans l'autre centre pour la greffe. Donc c'est quand même assez compliqué.
Bon, en termes de coordination de toutes les équipes, on imagine que ça doit être assez compliqué. Thierry Frouget, comment se déroule une intervention sur une personne vivante qui souhaite donner un organe à l'un de ses proches ? On imagine que la coordination, c'est aussi quelque chose d'assez important ?
Donc c'est une intervention qui est programmée. Donc déjà, c'est beaucoup plus simple que pour une greffe par donneur cadavérique. Donc la première phase, c'est de prélever le rein chez le donneur. Donc la technique est la même que celle qu'on va faire pour une tumeur de rein. Donc ça se fait par voie célioscopique, hein, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas l'abdomen. On va mettre des trocars à l'intérieur de la cavité abdominale avec des caméras et des instruments de chirurgie qui vont permettre de couper l'artère, la veine, l'urètre et de disséquer le rein et de le prendre après. Après, on met le rein dans de la glace, on le préserve et puis on va commencer la greffe du receveur après.
D'accord, donc c'est quelque chose finalement qui est assez simple pour les équipes médicales.
Oui, comme je vous dis, c'est à la limite plus simple que d'organiser une greffe par donneur cadavérique qui, par définition, n'est jamais programmée.
Alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais avec la possibilité pour des personnes vivantes en bonne santé de donner un organe à l'un de leurs proches, ça ouvre un enjeu peut-être de communication auprès de la population, donc, d'où le colloque du 26 mars. Alors moi, je me permettrai peut-être un petit parallèle avec la loi Leonetti. Si je me plante, vous me le dites. Donc la loi Leonetti qui est relative aux droits des malades et à la fin de vie, laquelle finalement propose des outils qui ont l'air assez pertinents finalement pour agir, mais qui fait face en situation à un déficit d'information des citoyens. Est-ce qu'on pourrait pas expliquer la pénurie d'organes par ce déficit d'information et de communication ? Qui veut répondre ?
Moi, je pense qu'il n'y a pas de déficit d'information ni de communication. Mm-hmm. Parce que l'Agence de la biomédecine fait un travail considérable par rapport à cela. Ne serait-ce que pas la journée sur le don d'organes qui a lieu chaque année le lendemain de la fête de la musique.
Oui.
Pour tenir la date. et aussi, moi, je tiens à saluer aussi tout le travail fait, un travail de terrain fait par les associations de la DOT.
Donc aujourd'hui, pour vous, les citoyens sont suffisamment informés sur ces enjeux-là.
Moi, je pense qu'ils sont... Mais il faut continuer. C'est un travail, toujours, qui est à renouveler. Je pense que les citoyens sont informés, oui.
D'accord.
De toute façon, le taux de refus est assez faible. Il faut savoir qu'en fait, ce qui a surtout augmenté, c'est le nombre de receveurs potentiels. C'est-à-dire que par rapport à il y a 20 ans... On a élargi les indications. On greffe maintenant des patients qui ont 80 ans ou plus, des patients qui ont fait éventuellement un infarctus du myocarde quelques années auparavant, mais qui sont stables sur le plan cardiaque. Donc, en termes de prélèvement, en fait, il n'y a pas eu de franche diminution. C'est simplement qu'on a beaucoup plus de receveurs sur les listes de greffe.
Le refus par précaution, est-ce que vous pourriez peut-être nous en toucher un petit mot ?
En fin de compte, l'expression serait par précaution. Je pense que c'est nous, quand au quotidien, en fin de compte, nous, on voit les familles. Hein. Mmh. Et ce qu'on recherche auprès de ces familles, quand effectivement on leur annonce que la personne a fait un AVC, que malheureusement il n'y a pas d'issue, et il va falloir amorcer la demande pour le don d'organes. Mais ce qu'on recherche, nous, c'est le patient lui-même qui est décédé. Qu'est-ce qu'il aurait voulu de son vivant ? Et c'est là justement qu'on peut effectivement prendre le mot peut-être précaution, que les familles, si elles ne le savent pas, ce qu'ils voulaient de son vivant, bah effectivement par précaution vont dire non, on ne va pas faire de prélèvement, parce D'accord. qu'on ne sait pas ce qu'ils voulaient de son vivant. Et c'est pour ça que la campagne, c'est aussi, tous on peut dire dans son entourage, dans sa famille, il faut le dire à quelqu'un, qu'est-ce qu'on veut plus tard ? S'il nous arrive quelque chose, est-ce qu'on est pour ? Le don d'organes, est-ce qu'on est contre ? Est-ce qu'on est pour les tissus, contre les tissus ? Mmh. Voilà, c'est juste un mot qu'on peut dire lors d'une émission ou que ce soit à la télé ou même après une radio. C'est d'en parler à un proche et puis de dire ce qu'on voudrait. Ou d'avoir sa petite carte. À la limite, si on est tout seul, d'avoir sa carte et dire je suis pour ou je suis contre. Donc c'est peut-être, on a des refus. Les refus, ils sont, comme on dit en Bretagne, sont bas, à peine 21%. Mais ces 20%, ça reste aussi, dans la plupart, c'est les familles ne savent pas ce que voulait l'autre. Mmh. Hein, et donc là, c'est plus de la communication. Alors, par précaution, effectivement... On ne va pas jusqu'au don d'organes.
Oui, d'accord. Oui, c'est un peu le parallèle que je me permettais tout à l'heure avec la loi Leonetti. Par exemple, déterminer la personne de confiance. Ça a posé le même type d'enjeu, finalement.
Oui, oui.
C'est qu'on ne prend pas suffisamment de précautions à l'avance.
Voilà.
En fait.
L'important, en fin de compte, que ce soit la journée qui est faite sur le don d'organes. Alors, il y a des informations. C'est sûr qu'on peut tous avoir accès aux informations sur... par informatique ou par la radio ou la télévision. Mais l'important, c'est soi-même se positionner, réfléchir 2 minutes. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et surtout, 2 minutes pour en parler. C'est un peu les campagnes qui sont faites sur le don d'organes. C'est de se positionner, de dire, moi, s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que je veux qu'on fasse ?
Ça consiste en quoi la procédure pour justement, imaginons, je suis un jeune qui, je me positionne en faveur du don d'organes. S'il m'arrive quelque chose, je suis prêt à donner. Ça se passe comment la procédure ?
Eh bien, juste, c'est d'en parler dans son entourage.
Tout simplement ?
Tout simplement, oui. Tout simplement. Et si on est, si on n'a pas d'entourage proche, c'est à la limite d'avoir une carte et sur le don d'organes, des cartes qu'on peut trouver chez le médecin, à la pharmacie, dans les hôpitaux, et qu'on puisse avoir dans son portefeuille. Mais ce n'est pas une priorité pour nous quand on, malheureusement, il y a un décès, on ne va pas chercher dans les affaires. Hein. C'est la famille. C'est surtout d'en parler autour de soi. Oui, ce qu'on a envie. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Si par contre on est contre, on peut s'inscrire sur un registre national des refus. Mais à partir de l'âge de 13 ans, donc le législateur estime qu'à partir de l'âge de 13 ans, on peut, voilà, si on est contre.
À l'heure actuelle, bon, on va avoir des difficultés à augmenter le nombre de prélèvements par donneur cadavérique. Donc les prélèvements à cœur arrêté, c'est quand même compliqué. Et donc l'objectif, c'est quand même de développer au maximum la greffe par donneur vivant. Et il faut savoir que qu'en fait, dans les consultations pré-greffe, il y a souvent deux cas. Soit le receveur vient directement avec l'idée d'une greffe par donneur vivant, et parfois même il vient avec le donneur potentiel. Et donc la procédure se met en place, et bon, après, il peut y avoir des contre-indications au prélèvement, mais en tout cas, ça va aller jusqu'au bout, je dirais. Soit le receveur n'en a pas parlé, donc c'est bien évidemment le médecin qui va faire la consultation, qui va lui parler de cette possibilité. Et très souvent, en fait, il n'y a pas de greffe par donneur vivant dans ces cas-là.
D'accord.
Donc, en fait, on a l'impression que c'est pas obligatoirement un déficit de donneur dans ces cas-là, mais plus une réticence du receveur à faire prendre des risques à des proches. Et donc c'est lui qui va refuser. On a eu quelques cas comme ça de patients chez qui un proche a appelé pour dire « moi je veux bien donner mon rein ». Donc dans ces cas-là, on dit à cette personne qu'il faut en parler avec le receveur. Mm-hmm. Et généralement ça ne va pas plus loin parce que le receveur, lui, il n'a pas envie de faire prendre des risques.
C'est assez intéressant ce que vous dites là par rapport à la loi de bioéthique de 2011. On parlait de proximité affective, proximité familiale. Ça peut s'avérer être une contrainte en fait.
Tout à fait.
Oui.
Et vous ne pensez pas aujourd'hui qu'on pourrait élargir peut-être, alors là c'est peut-être un positionnement un peu plus politique, je ne sais pas, mais élargir le cercle des donneurs vivants, finalement en arrêtant de se contraindre à la proximité affective et familiale, est-ce que tout un chacun ne pourrait pas être donneur potentiel finalement?
Oui, mais qu'on disait c'était, enfin écoute, ils ont élargi, mais que pour le don croisé.
Enfin, c'est déjà très large.
Hein, c'est déjà
large. Puisqu'il y a les parents, les enfants, les grands-parents, les cousins, oncles, tantes, et puis toute personne qui peut prouver,
une attache.
Une attache depuis au moins 2 ans. Donc ça fait quand même un nombre potentiel de donneurs assez important, en général. Donc je suis pas sûr que ce soit là le problème pour développer la greffe par donneur vivant.
Ça permet peut-être de souligner une autre dimension hein, dans le don d'organes, c'est la dimension peut-être psychologique. On imagine que pour les familles et puis pour les personnes concernées, hein, plus généralement par le don d'organes, il y a un accompagnement peut-être qui existe, je ne sais pas.
Oui, il y a un accompagnement. Alors l'entretien, c'est la base de tout le travail de la procédure sur le don d'organes. Mm-hmm. Donc comme disait Valérie, si on sent que la personne, la famille est très hésitante, c'est là qu'il faut créer un lien avec les personnes qui sont là et d'aller un peu plus loin dans l'entretien et de voir quelle était la philosophie de la personne, est-ce qu'elle était généreuse, et quelles étaient ses activités. L'un va dire il était sapeur-pompier, voilà. Donc il faut rebondir et c'est la partie, j'ai envie de dire, la plus délicate de notre travail.
Ça nécessite du temps, j'imagine.
Ça nécessite du temps et de plusieurs, parfois, plusieurs entretiens. Mm-hmm. Et le temps gagne sur la réponse, en fait. Il faut prendre son temps.
Ça crée peut-être une tension, j'imagine, entre le temps long de l'accompagnement, de la réflexion psychologique, etc. Et parfois peut-être l'urgence médicale qui se manifeste sur le terrain.
Oui, oui, c'est vrai qu'on va pas, c'est pas une journée, on va pas prendre la réponse, attendre trop longtemps. Mais je crois que on a tous cette notion dans les équipes qu'il faut quand même, si la famille est plus hésitante, il y a des personnes qui attendent un greffon derrière. Donc c'est à nous d'être extrêmement patients, d'être à l'écoute de ces personnes. Et on n'est pas là non plus pour absolument que le prélèvement se réalise. Si on obtient un non, il y a un accompagnement de la famille sociale, psychologique. Mmh. Puisque le fait d'avoir un décès dans une famille, ça bascule. Selon les professions, tout s'écroule et ils sont incapables de prendre la décision à ce moment-là.
D'accord, donc c'est de réunir les conditions pour que la décision soit prise de façon éclairée.
Oui.
C'est un enjeu.
Cela pose un problème pour les patients à cœur, enfin les donneurs à cœur arrêté, puisque là justement on manque de temps entre le moment où le patient est décédé et le moment où on doit prélever. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accorder beaucoup de temps à la famille pour justement avoir la possibilité de prélever le patient. Donc ça, c'est une limite justement à la greffe de patients à cœur arrêté.
D'accord. Ouais, donc il y a bien une tension finalement qui finit par apparaître entre ces deux temporalités-là.
Ce oui.
Alors on l'a mentionné là, la question du deuil, finalement, qui est assez centrale aussi pour les équipes au quotidien, on imagine. Alors pour les auditeurs, je le mentionne, le colloque du 26 mars va aborder cette question-là un peu plus frontalement, notamment grâce à l'intervention de Benoît Connor, maître de conférence en littérature à Rennes 2. Bon, malheureusement, il n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui. Je vous pose la question à tous. Alors, cette question du deuil aujourd'hui, elle est constitutive de la pratique professionnelle ? Ou comment la gérez-vous ?
Les familles, quand elles rappellent pour avoir des nouvelles des receveurs, confient que c'est bien, ça a servi, on n'a pas pris une décision pour rien. Elles sont soulagées et je pense que, elles le disent, que ça facilite leur deuil. D'autre part, je pense qu'on ne doit pas faire de la greffe d'organes ou du don d'organes un monde à part. Le deuil, à partir du moment où vous perdez quelqu'un, que ce soit à l'hôpital ou ailleurs, y a tout un processus qui va se mettre en place.
On arrive déjà au terme de cette émission. Valérie Rebourg, je me retourne une dernière fois vers vous. Est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter un peu en détail le programme du 26 mars ? Je le rappelle, le colloque se déroule au bâtiment Victor Bach du bâtiment L sur le campus de Rennes 2.
Alors, donc, cette journée, déjà avant la journée, il va être distribué sur le campus donc des flyers pour donner le programme et puis vous allez voir les affiches. Donc journée sur le don d'organes. Donc au programme, avec différentes conférences, à 17h20, donc intervention d'un chirurgien, de greffeur de Rennes. Après une intervention, donc là c'est un psychologue qui travaille en réanimation, Benoît Lorne, qui justement pourra effectivement parler du deuil. Pour les familles. Un témoignage justement d'une jeune femme aussi, Vanessa Fisson, qui a écrit un livre, Un don de vie. La dimension donc le don d'organes en littérature, donc là par Monsieur Benoît Connor, universitaire à Rennes 2. Et puis à 18h40, il y aura la projection du film Donner-Recevoir, qui avait déjà été mis aussi en salle sur Rennes, et qui est proposé par France Adote. Alors France Adote, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'association pour le don d'organes et de tissus humains. Et à 20h10, une table ronde, là je pense avec beaucoup de questions, débat, et puis avec la présence des différents intervenants.
Le film dont vous venez de parler, vous auriez peut-être deux mots à nous dire dessus, un peu plus précisément ?
C'est un très beau film, justement, qui ne... on n'a pas du tout ce côté médical. Ce sont effectivement plus des témoignages, parce que il n'y a pas de photos ou de flash sur des interventions ou sur un hôpital. On ne voit que des témoignages. Et justement, la reconstruction, je ne vais pas en dire trop non plus, reconstruction, donc c'est très bien imagé, c'est un très beau film, oui.
Eh Eh bien, merci à tous les trois pour votre présence aujourd'hui dans Enjeux de Santé. Donc, c'est votre magazine dédié à la santé sur le 88.4 de Radio Campus Rennes. Vous étiez en compagnie de Thierry Frouget, néphrologue au CHU de Rennes, Valérie Rebourg et Simone Joannigo, toutes deux infirmières coordinatrices de prélèvement d'organes et de tissus au CHU de Rennes également. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission et les informations relatives au colloque « Le don d'organes, as-tu fait ton choix ?» sur www.radiocampusrennes.fr. Merci à tous les trois.
Merci beaucoup.
Merci.